Nous vous présentons dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Entre la lune et moi, ou 10 années de ma vie sublimée, production mise en scène, Julien Jean-Pierre. Charles marche au milieu de cette foule, de ses décombres, Nathalie dans ses bras. Il a déposé Nathalie sous son lit, dans sa chambre, à genoux à côté d'elle. Charles se souvient de cette jeune fille qui, par amour pour lui, a accepté, sans rien dire, tous ses caprices et même ses humiliations. Maintenant, elle est là, inerte, qui lui reste fidèle. Personne pour en enterrer Nathalie, même pas de prêtre. Charles décide de l'enterrer dans le jardin de la villa de son père. Charles, devant la tombe. Nathalie, ma pauvre Nathalie, je t'ai apporté que des malheurs. Pardonne-moi. Pardonne-moi, j'ai pas su t'aimer. Cette chaîne de vie. Avec cette machinerie de ramassis de malheur qui t'a broyé, toi, père, mère et les autres. La société m'a tout pris, il ne me reste que mon chagrin, puisque moi on m'a laissé en vie. je jure, c'est que plus jamais on m'arrachera ce que j'aime. Je dis adieu à ce monde pourri. Je vais chercher un coin tranquille pour attendre la mort. Charles part sans bagage. Il fait nuit. Les rues sont désertes. Ce ne sont que des ruines causées par les bombardements. Le ciel est rouge. Charles se dirige vers la gare de Perrache. Là, peut-être qu'il pourra quitter cette ville en ruine. Arrivé à la gare, il y a une foule immense. La gare est à moitié détruite. Il ne lui reste plus qu'à retrousser chemin et peut-être à partir à pied. Arrivé à la sortie de la ville, il y a des milliers de gens sur les routes. Ils se dirigent vers le sud, où la plupart ils marchent à pied, car les bombardements ont bombardé beaucoup de voitures, ont été détruites. La plupart des rues et routes piétons impraticables. Charles se dirige en direction de Grenoble. Un homme le prend par l'épaule.
Où vas-tu, mon petit gars? Une ordiste arrive. Il faut pas aller de ce côté. Je voulais aller avec nous, dans le nord. Non, je ne peux pas. Je dois aller rejoindre mon père.
Et Charles se sauve en courant. Il se sauve en courant. Pour aller à Chartreuse, il évite les routes et les villages. Il fait soleil, le ciel est bleu. En suivant un chemin, il aboutit à une ferme. Malgré les poules qui picorent devant la maison, cette ferme semble isolée. Elle n'est pas très grande. C'est une maison d'un étage. Au centre se trouve la grange. Non, sur les deux côtés se trouve la grange ou l'étable. Les murs sont en terre beige. Au milieu de la cour, une fontaine. La porte est ouverte. Charles se penche vers la porte d'entrée. Elle donne sur un couloir avec un porte-manteau bourré de vêtements. Au fond d'une pièce, il fait sombre dans la maison. Il y a quelqu'un? Pas de réponse. Il n'entre pas dans la maison et va vers la fontaine. Charles est sale, cheveux défaits, pas rasés. Son costume gris est plein de terre. Il quitte sa veste, la dépoussière autant qu'il peut, enlève sa chemise, se met la tête sous l'eau. Elle est froide, presque glacée, ça donne le frisson. L'eau a dégouliné jusqu'à son pantalon, il est tout trempé. Et que vas-tu faire maintenant? Charles se retourne, il voit un cavalier en selle. C'est un jeune homme, mince, blond, habillé de tout blanc. Charles s'avance vers lui.
Je m'excuse, monsieur, je ne savais pas que cette ferme était habitée. J'ai appelé avant.
Habitée ou non, cela n'est pas la question. Que comptes-tu faire maintenant pour te sécher?
Je ne sais pas.
Peut-être ma chemise qui est tombée et qui est toute sale. Cela te salira. Le jeune homme défait son mouchoir, son foulard rouge qu'il avait mis en guise de cravate et le lance à Charles. Charles le prend.
Merci. Dépêche-toi et viens avec moi. Je m'appelle Didier, comte de Gaufroide aux deux pins. Il est au village de Saint-Martin. Charles, tout en s'essuyant, lui dit « Charles d'Aubord, j'habite Lyon. » Et Charles suit Didier, qui fait marcher son cheval à pied, qui fait marcher son cheval au pas, près de lui. Le village est désert, c'est la porte des nordistes qui ont pris Lyon. Plus rien ne peut les arrêter désormais. Ils peuvent être là d'une minute à l'autre. Moi j'habite sur le château qui se trouve là, en haut, sur le rocher. Charles voit, sur un sommet d'une petite montagne, entourée de sapins, sur un rocher, un château sans âge qui a l'air de se fondre avec le rocher. Il monte la montagne. Arrivé devant le portail, Didier descend de cheval pour ouvrir le portail. Parc. Didier a refermé le portail. Le château se trouve dans le parc. Ils suivent le chemin. Sur le perron se trouve un vieil homme assis sur une chaise en bois, habillé en jardinier, chapeau de paille. Devant lui, une bassine pleine d'eau et un sac de pommes de terre. Il épluche des pommes de terre. Didier descend de cheval. Martin! Ben, le vieux monsieur lève la tête. Je vous présente Charles de Haute-de-Bord. Il y a eu des ennuis. Présentez-lui la salle de bain et la chambre d'amis. Martin se lève, met son chapeau sur sa chaise et ils entrent tous les trois. Didier dit « Excusez-moi, monsieur de Haute-Bord, mais j'ai du travail très urgent. Je vous laisse avec Martin. Faites comme chez vous. » Et il monte les marches 4 à 4. Martin dit à Charles « Je vous ai bien reçu, monsieur. » Et ils vont au premier étage. Arrivé au premier étage, il longe un couloir sombre. Où se trouve une rangée de portes. Et de l'autre, la balustrade du palier. Des invités. Nous avons très peu à
chaque fois que nous avons eu des malheurs. Votre chambre est là-bas au bout. Celle-ci. Elle est toujours fermée. C'est la chambre du drame. Monsieur Didier la laisse telle qu'elle. Voilà votre chambre. Il ouvre la porte. Fait passer Charles. Les volets sont fermés. Martin va les ouvrir. La chambre est grande, tapisserie, vieil or, meubles Louis XIII. Voilà, monsieur, j'espère c'est que vous serez bien. La salle de bain communiquant à votre chambre, c'est ici. Ouvre la porte et la lui montre. Vous trouverez dans le placard de la salle de bain une serviette et peignoir. Charles remercie et le domestique sort. Charles va s'asseoir sur le rebord du lit. Ce calme, cette douceur de vivre au milieu de ce chaos, le tourner la tête. Il ne sait plus où il en est. Et puis il commence à avoir faim. Ça fait peut-être 24 heures qu'il n'a rien pris. Il aimerait aussi dormir, mais non. Il faut qu'il fasse toilette. Puis se brosser. Alors, il se lève et va dans la salle de bain. Une fois qu'il est nettoyé et rangé un peu ses affaires, il s'allonge en attendant qu'on en vienne le chercher. Martin frappa la porte pour le prévenir que le dîner est prêt. Il est 20h30. Sam sort de sa chambre. En passant devant la porte de la chambre fermée, il se demande quel malheur il y a eu. Entrez, il retrouve Didier dans la salle à manger. Dans un coin, la table a été mise de nappes blanches, brodées blanc, deux couverts l'un en face de l'autre. Didier fait signe à Charles à s'asseoir. Asseyez-vous. Charles s'assoit. Charles a tellement faim que seulement l'odeur des mets lui donne le vertige. La première cuillerée qu'il avale d'un bouilli chaud lui fait mal en avalant.
Didier le voit.
C'est longtemps que vous n'avez pas mangé?
Je ne sais pas. Peut-être 1, 2 ou 3 jours.
J'ai quitté Lyon?
Oui. Lyon était à feu et à sang. Des ruines. Des cris. Des morts. Une véritable boucherie.
Vous étiez seul à Lyon?
Non, je vivais avec ma femme.
Elle est morte
au coup d'une attaque aérienne.
Nous courions l'un en face de l'autre au milieu des bombardements,
de la foule, et juste où j'allais la rejoindre, elle tombe à la renverse, une balle. J'ai pris dans mes bras et amené chez moi. Plus de prêtre. Rien que la débâcle, une foule qui hurle ensanglantée et des ruines. J'ai dû enterrer ma femme moi-même dans mon jardin. Oh, mon Dieu! Mon Dieu!
Didier serre les mains de Charles et le repas se poursuit en silence. Après le repas, ils sont allés au salon. Ils sont tous les deux assis, l'un en face de l'autre, dans des fauteuils.
Il lui dit, je vis seul ici avec Martin. J'avais ma sœur avec moi, mais des inconnus l'ont tué. J'ai décidé de rester ici et d'attendre les événements. Mais je ne le laisserai pas faire. Oh, ça non! Il se lève d'un bond, fait les 100 pas. Je voulais savoir pourquoi. C'est misère. C'est simple. Il va à la bibliothèque. En sort 3 livres. Il les apporte à Charles. Regardez, tout a commencé par ça. Il jette au pied de Charles le livre. Charles le prend. Puis ceci. Charles le prend. Et cela. Il le jette aussi et Charles le prend. Charles lit à haute voix les titres. L'au-delà du commun. Les illusionnistes. Qu'est-ce qui fait courir Jean-Denis? Mais avant, l'au-delà du commun, il y a le lac de Montrion.
Charles dit, mais avant tout ça, il y a eu le lac de Montrion?
Didier lui dit, oui, mais le lac de Montrion, c'était pas la même chose. Il ne détruisait pas pour le plaisir de détruire. À partir de ça, nous sommes, pour eux, lui, nous sommes tous de la pourriture. Voilà ce que nous sommes devenus. Mais moi, ils ne m'auront pas. Je ne me laisserai pas faire. Non, ils ne m'auront pas comme ça.
Après la soirée, Charles est monté à sa chambre. Martin monte avec lui. Il va ouvrir les fenêtres de la chambre de Didier. Didier est resté en bas, dans sa bibliothèque, pour faire un peu de comptabilité.
Mande, que s'est-il passé à la mort de la sœur de Didier?
Eh bien, monsieur, bien monsieur, deux jeunes gens sont rentrés ici sous de fausses identités. On les a hébergés et l'un des deux a séduit la sœur de monsieur Didier pour s'amuser, bien sûr, et l'a fait souffrir. Malheureusement, la jeune fille en est morte.
Et que sont devenus les deux jeunes gens?
Monsieur Didier s'en est occupé.
Comment?
Je ne peux pas vous le dire. Bonsoir, monsieur.
Bonsoir, Martin. Et Charles entre dans sa chambre.
Charles se réveille et dans sa chambre entend un bruit imperceptible qui le réveille. Il ne sait pas ce qu'il y a. Il décide de se lever. Il sort de sa chambre et voit du haut de la balustrade Didier en robe de chambre et pyjama. Sur les escaliers. En haut, des hommes mitraillettes à la main. Un garde monte des marches, s'arrête, fait le salut militaire, commandant de la 17e division des États du Nord, en route pour Grenoble. Il est une personne subversive. Nous venons vous arrêter et prendre possession de vos biens. Le commandant fait un pas. Didier vise le commandant et tire. Les soldats ripostent. Charles se retire de la balustrade. Les soldats montent. Charles n'a pas le temps de voir si Didier est mort, il court jusqu'au dernier étage. Monte. Ouvre la porte qui se trouve au grenier. Ouvre une mansarde et sort. En bas, dans la cour, il y a des véhicules de soldats de partout. Ils montent sur le rebord de la fenêtre et suivent le rebord du toit en se tenant aux moulures qui entourent le toit. Il fait un peu de vent. Il ne sait comment. Il fait.
Il a réussi à contourner le château. Côté jardin, tout est calme. Il va tenter de descendre par là.
Mon Dieu, faites à ce que je ne tombe pas.
Il suit le conduit d'une gouttière. S'arrêtant à chaque étage où il y a un bord. Il y en a 3 étages. Enfin, il saute, se roule à terre, rien de cassé. Il fonce vers le mur de pierre. Il saute et se trouve en pleine nuit.
Il court pendant un moment.
Je voulais dire pas qu'il se trouve en pleine nuit, mais qu'il se trouve en pleine campagne.
Il s'arrête, il est épuisé, son corps bat très fort, il ne sait plus où il en est, il s'allonge à terre, il fait encore nuit, il est dans la forêt, c'est la pleine nuit, la pleine lune, il fait beau.
Quelle énergie j'ai pu avoir. J'ai pour défendre ma peau. Moi qui veux mourir. Mais je ne veux pas mourir dans les mains de ces salauds. Je veux mourir par moi-même. Non. Ils ne me mourront pas. Ils n'auront pas ma peau. Ils ont eu celle des gens que j'ai aimés. Mais moi, ils ne mourront pas.
Ils décident de s'endormir.
Petit matin, il est réveillé par le chant des oiseaux. Il est engourdi et un peu froid. Il se lève, fait quelques mouvements pour se réchauffer et décide de partir. Il est un peu égaré en arrivant à Saint-Martin. Avant de partir, pour le Vercors, je dois aller à Grenoble prendre quelques provisions. Allons, retrouvons la route.
Après 2 heures de marche, il marche les mains dans les poches, sur la route qui mène à Grenoble, elle est déserte. Arrivé à un tournant, il voit une petite maison qui longe la route. Les fenêtres et la porte sont ouvertes. Comme il a faim, il s'approche de l'entrée de la maison. Y a quelqu'un ? Pas de réponse. Comme on entend du bruit à l'intérieur de la maison, Charles se penche un peu plus. Le hall d'entrée est sombre. Y a quelqu'un ? On entend des pas qui descendent des escaliers. Voilà, voilà, on arrive ! Dit une voix de femme. Charles voit s'approcher dans le hall une femme, une quarantaine d'années, grande, forte, brune, cheveux en chignon gonflant, un regard avenant. Elle porte une blouse noire à pois blanc et a une blouse sur un tablier noir. Et sur sa blouse, un tablier noir. L'approchant de Charles, elle s'essuie les mains avec son tablier. Vous désirez, monsieur ? Madame, je vous excuse de vous déranger. Ça fait longtemps que je n'ai pas mangé. Si vous pouviez me donner un peu de pain ou autre, je peux vous payer si vous le désirez. Il s'approche de lui. Ma foi, monsieur, nous allions partir. Il paraît que les nordistes arrivent. Ils se replient. Je me replie vers Grenoble. Dans une grande ville, l'on risque moins que dans un endroit isolé. En parlant, elle a vu que ses traits ne manquaient pas de distinction. Et puis, elle est veuve et chaste depuis 5 ans. Charles fait un pas pour s'en aller. Elle le retient par le bras. « Non, restez, venez entrer, nous trouvons bien quelque chose pour vous nourrir. » Elle fait entrer Charles dans la pièce.
Les murs sont vides. L'on voit des traces de meubles sur les tapisseries. Au plafond, une ampoule, des caisses à terre, des valises en carton marron. Debout, vers la fenêtre, un garçon d'une dizaine d'années ou 12 ans. Short et pull marine, chemise blanche. L'air méfiant, rebelle. À terre, près des valises, un loup de garçon de 6 à 7 ans, même vêtements que l'autre. Bruno, André, je vous présente monsieur. Excusez-moi, Charles de Hautebord, la mère reprend. C'est un réfugié, il a faim. Nous allons lui servir qu'un petit quelque chose. Bruno, va chercher le sac qui se trouve dans ma chambre. Le grand garçon sort. Charles reste debout, ne sachant quoi faire. Asseyez-vous sur une valise. Nos meubles sont déjà partis. Charles va s'asseoir sur une valise. Il attend. Bruno revient avec un sac. Sa mère lui prend des mains. Et elle sort et l'ouvre. Elle y prend, enroulée dans une serviette, du pain, un couteau, un camembert. Elle coupe un morceau de pain et du fromage et donne à Charles. Pendant que Charles mange, elle lui pose des questions.
Vous venez de loin ?
De Lyon.
Est-ce vrai qu'à Lyon, tout est en ruine ?
Oui.
Il y en a beaucoup qui ont pu s'échapper de cette tuerie ?
Charles lui dit, je ne sais pas.
Elle lui demande, vous vivez seul ?
J'avais ma femme, mais elle est morte dans une attaque.
Que comptez-vous faire maintenant ?
Rien. Aller en Grenoble, prendre des vivres et tâcher de rejoindre mon père.
Venez avec moi.
Je suis seule. Je m'appelle Marie Guillet. J'ai 40 ans et je suis veuve depuis 5 ans. Je ne sais pas si je dois accepter, dit Charles.
Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Entre la lune et moi, ou 10 années de ma vie sublimée, production mise en scène, Julien Jean-Pierre.